Exodos, un second messager, le Coryphée, Édipe, Créon.
Vous qui êtes les habitants les plus respectés de Thèbes, quel malheur vous allez entendre, quel malheur vous allez voir, quelle affliction va vous saisir si l'amour de la patrie vous intéresse encore à la famille des Labdacides. Non, les eaux de l'Hystère ni celles du Phase ne suffiraient pas pour laver les souillures cachées dans ce palais, mais voici d'autres désastres volontaires qui vont paraître au grand jour. Ah, de tous les maux les plus cuisants sont ceux qu'on s'est infligés soi-même.
Rien ne manque à l'horreur de ceux que nous connaissons déjà. Que peux-tu y ajouter encore ?
Un mot me suffira pour le dire et à vous pour l'apprendre. Jocaste est morte.
L'infortunée ! Quelle a été la cause de sa mort ?
Elle-même s'est tuée de ses propres mains. Ce que cette mort a de douloureux vous échappe, car ce spectacle n'est pas sous vos yeux. Cependant, autant que j'en conserve le souvenir, je vous dirai les souffrances de cette infortunée. Agitée d'une sombre fureur dès qu'elle eut franchi le seuil du palais, elle courut droit à la couche nuptiale, arrachant sa chevelure de ses deux mains. Une fois entrée, elle ferme violemment les portes en dedans, évoque l'ombre de Laios, lui rappelant le souvenir de ce fils oublié, de la main duquel il devait périr lui-même, en laissant une mère qui donnerait le jour à des enfants incestueux. Elle arrose de ses larmes cette couche où, doublement malheureuse, elle eut un époux de son époux et des enfants de son enfant. Je ne vis pas ensuite comment elle a péri, car Édipe se précipita à grands cris, ce qui nous empêcha de voir la mort de Jocaste. Mais nos regards se tournent vers lui, qui errait, et ça et là. Dans cet égarement, il nous demande une épée et veut savoir où est l'épouse, qui n'est pas son épouse, celle dont le sein maternel, après l'avoir portée, porta aussi ses enfants. Dans sa fureur, un dieu la lui montra, car ce ne fut aucun de nous qui étions là présents. Poussant de grands cris, et comme si quelqu'un le guidait, il s'élance contre les portes, fait sauter les battants de leurs gonds et s'élance dans l'appartement. Là, nous voyons Jocaste, encore suspendu au lien fatal qui a terminé ses jours. À cette vue, l'infortuné rugit comme un lion et détache le lien funeste. Mais quand le corps de la malheureuse fut gisant à terre, alors on vit un affreux spectacle. Arrachant les agrafes d'or de la robe qui couvrait Jocaste, Édipe en frappe ses yeux, parce que, s'écriait-il, il n'avait vu ni ses malheurs ni ses crimes, et que désormais dans les ténèbres, il ne verrait plus ce qu'il ne devait point voir, il ne reconnaîtrait plus ce qu'il lui serait doux de reconnaître. En parlant ainsi, il frappe et déchire à plusieurs reprises ses paupières. En même temps, ses yeux ensanglantés arrosaient son visage, et ce n'était pas seulement des gouttes qui s'en échappaient, mais c'était une pluie noire et comme une grêle de sang. Tels sont les mots communs à l'un et à l'autre. C'est ainsi que l'époux et la femme confondirent leur infortune. Heureux autrefois, ils jouissaient d'un bonheur mérité. Mais aujourd'hui, les gémissements, le désespoir, l'opprobre et la mort, aucune espèce de malheur n'y manque.
Et maintenant, l'infortuné a-t-il quelque relâche à ses souffrances ?
Il crie d'ouvrir les portes et d'exposer aux yeux de tous les Thébains ce parricide, ce fils dont la mère... Je ne dois pas répéter ces blasphèmes. Il est résolu de s'exiler de cette terre et ne veut plus rester dans ce palais sous le poids des malédictions qu'il a lancées contre lui-même. Cependant, il a besoin de secours et d'un guide, car ses douleurs surpassent ses forces. Tu vas en être témoin. Voici les portes qui s'ouvrent. Tu vas voir un spectacle qui attendrirait même un ennemi.
Entre Édipe. Comos. Le cœur Édipe.
Spectacle horrible, le plus horrible qui ait jamais frappé mes yeux. Ô malheureux, quel délire s'est emparé de toi ? Quel est le dieu qui a fait fondre les calamités les plus cruelles sur ta destinée ? Je ne puis même supporter ta vue. Moi qui aurais tant de questions à te faire, tant de choses à apprendre de toi ou à contempler en toi, je ne le puis, tant ton aspect me fait frissonner.
Hélas, hélas, malheureux que je suis, En quel lieu me portent mes pas? Où s'égarent les sons de ma voix? Ô fortune, où m'as-tu précipité?
Dans des horreurs qu'on ne peut ni voir ni entendre.
Ô ténèbres, nuages odieux, implacables, qui m'enveloppent sans retour d'une impénétrable obscurité. Malheur à moi, mille fois malheur! De quels aiguillons me déchirent à la fois ma douleur présente et le souvenir de mes calamités?
Parmi tant de maux, il n'est pas étonnant que tu aies doublement à gémir et doublement à souffrir.
Ô mon ami, tu restes donc toujours fidèle à me servir? Car tu oses encore prendre soin de moi, tout aveugle que je suis. Hélas, hélas, je ne me trompe pas, et malgré les ténèbres qui m'environnent, j'ai du moins reconnu ta voix.
Terrible résolution! Comment as-tu eu le courage de t'arracher ainsi les yeux? Quel dieu a poussé ton bras?
Apollon, mes amis, oui, Apollon, est la cause de mes maux, de mes cruelles souffrances. Mais ce n'est pas sa main qui m'a frappé, c'est moi seul. Car que me servait de voir, lorsque je ne pouvais rien voir que d'affligeant?
Les choses sont en effet, comme tu le dis.
Que pourrais-je donc voir encore? Aimer, entendre avec plaisir, ô mes amis. Chassez-moi de cette terre au plus vite. Délivrez-la de ce fléau, de ce monstre chargé de la haine des hommes et des dieux.
Ô Édipe, doublement malheureux, et par ta misère, et par le sentiment que tu en as, plus odieux que je ne t'eusse jamais connu.
Périsse celui qui me délivra des entraves douloureuses de mes pieds, m'arracha à la mort et me sauva, car alors j'aurais péri, et je ne serais pas pour mes amis et pour moi un éternel sujet de douleur.
Moi aussi je m'unis à ton vœu.
Je n'aurais pas été le meurtrier de mon père, ni l'époux de celle qui m'a donné le jour. Mais aujourd'hui, abandonné des dieux, fils de parents impurs, j'ai eu des enfants de celle même dont je suis né. Et s'il est encore des mots plus horribles, ils ont fondu sur Édipe.
Je ne sais pas si je dois approuver ta résolution, car il eût mieux valu pour toi de ne plus vivre que vivre aveugle.
Fin du Comos.
Ce que j'ai fait était ce que j'avais de mieux à faire. Ne cherche point à me persuader et ne me donne plus de conseils. De quels yeux, en effet, si j'étais descendu clairvoyante aux enfers, regarderais-je un père, une mère infortunée, sur lesquels j'ai commis des crimes que la mort la plus ignominieuse ne saurait expier. Diras-tu qu'il m'eût été doux de voir croître ces enfants sous mes yeux, quelle que soit leur naissance? Non, jamais je n'aurais pu supporter leur vue. Je ne pourrais plus voir cette ville, ces murs, ces images sacrées des dieux, que moi seul entre les Thébains je me suis interdit à moi-même, lorsque j'ordonnais à tous de bannir le coupable, moi l'impie, que les dieux ont désigné comme l'être impur et issu du sang de Laïos. Après avoir ainsi révélé mon opprobre, aurais-je pu en voir les témoins d'un œil assuré? Non, certes. Mais que ne puis-je encore fermer en moi les sources de l'ouïe? Je ne manquerai pas de clore toutes les parties de mon corps afin d'être à la fois aveugle et sourd. En effet, n'avoir pas le sentiment de son malheur est une consolation. Cithéron, pourquoi m'as-tu donné asile? Pourquoi du moins ne m'as-tu pas sur le champ donné la mort pour que jamais le secret de ma naissance ne fût révélé aux hommes? Polybe, ô Corinthe, palais antique, que j'appelais celui de mon père, quel amas d'impureté vous nourrissiez en moi sous ces dehors brillants! Maintenant je me trouve être un coupable, issu d'une race coupable. Ô triple chemin, sombre vallée, forêt témoin de mon crime, étroit sentier à l'embranchement des trois routes, qui avait bu le sang de mon père versé par mes mains, avez-vous gardé le souvenir des crimes que je commis alors, et de ceux que je commis ensuite une fois arrivé dans Thèbes? Hymen, hymen funeste, tu m'as donné la vie, et après me l'avoir donnée, tu fis rentrer mon sang dans ces mêmes flancs où je fus porté, et par là tu produisis des pères, des frères, des fils, criminels assemblage, des femmes, des épouses, des mères, et tout ce que les hommes virent jamais de plus abominable. Mais c'en est trop. Craignons de redire ce qu'il est horrible de faire. Au nom des dieux, hâtez-vous. Cachez-moi dans quelque terre écartée. Arrachez-moi la vie, précipitez-moi dans la mer, en des lieux où vous ne me verrez plus. Approchez. Daignez toucher un malheureux. Croyez-moi, ne craignez rien. De tels maux ne sauraient atteindre nul autre mortel que moi.
Mais voici à propos, Créon, qui pourra satisfaire tes demandes et t'aider de ses conseils, car il reste seul, chargé de veiller à ta place sur ce pays.
Hélas ! Que pourrais-je donc lui dire ? Quel droit ai-je d'espérer en lui ? Je me suis montré naguère, si injuste à son égard.
Je ne viens point, Édipe, insulter à tes maux et te reprocher aucune des anciennes offenses. Mais vous, Thébains, si vous ne respectez plus les hommes, au moins craignez de souiller la lumière vivifiante de ce soleil sacré, en exposant à tous les yeux cet objet impur que ni la terre, ni l'air, ni les eaux ne peuvent plus recevoir. Faites-le donc rentrer au plus tôt dans le palais. Les parents doivent seuls être témoins des maux d'un parent. Seuls, ils peuvent entendre ses plaintes.
Ô nom des dieux, puisque trompant mon attente, tu paies de la plus généreuse amitié mes cruels outrages, écoute-moi. Car c'est dans ton intérêt que je parlerai, et non dans le mien.
Et quelle est la chose que tu désires si vivement obtenir de moi ?
Chasse-moi ou plutôt de cette terre, en des lieux où je ne puisse converser avec aucun mortel.
Je l'aurais fait, n'en doutez point, si je ne voulais auparavant consulter le dieu.
Mais son oracle est assez manifeste, il a ordonné de faire périr le parricide, l'impie.
Sans doute, il l'a dit. Toutefois, dans la situation critique où nous sommes, il vaut mieux l'interroger sur ce qu'il faut faire.
Ainsi vous le consulterez en faveur d'un malheureux?
Tes malheurs, en effet, prouveraient assez qu'il faut croire le dieu.
Je te le demande aussi, et je t'en conjure. Prépare pour celle dont le corps est étendu dans ce palais les funérailles que tu jugeras convenables. C'est un devoir qu'il te sera honorable de rendre au tien. Quant à moi, il n'y a pas lieu de penser que jamais la ville de mes pères veuille me posséder vivant. Laisse-moi donc aller sur les montagnes, sur le Cithéron, ma patrie, que ma mère et mon père m'avaient désigné dès ma naissance pour tombeau, afin que je meure où ils voulurent me faire périr. Toutefois, je prévois trop bien que ni la maladie ni aucun autre accident ne doit terminer ma vie, car je n'aurais pas échappé à la mort si je n'étais réservé à quelque malheur affreux. Eh bien, que ma destinée s'accomplisse. Quant à mes enfants, je ne te recommande point mes fils au Créon, ils sont hommes, et partout où ils seront, ils ne manqueront de rien. Mais je laisse deux filles, dignes de pitié. Autrefois, elles s'asseyaient à ma table, et je ne touchais à aucun aliment dont elles n'eussent leur part. Veille sur elles, et surtout permets-moi de les toucher encore, et de pleurer avec elles notre misère. Créon, roi, dont la naissance est pure, Créon, ah, s'il m'était permis de les toucher de mes mains, il me semblerait les voir encore.
Entre Antigone et Ismène.
Que dis-je? Ne les entends-je pas verser des larmes? Ô fille chérie, la pitié de Créon vous aurait-elle envoyée auprès de moi? Ne me trompais-je pas?
Tu ne te trompes pas, c'est moi qui les ai fait venir, quand j'ai connu le désir que tu avais de les voir comme autrefois.
Ah, puisses-tu être heureux! Puissent les dieux, pour prix de ce bienfait, veiller sur toi mieux que sur moi. Mes filles, où êtes-vous? Venez ici. Venez toucher ces mains fraternelles qui ont réduit à ce triste état les yeux jadis brillants de votre père. Malheureux, qui, sans le savoir, sans me connaître, vous engendrez dans les mêmes flancs qui m'avaient porté. Je pleure sur vous, car je ne puis vous voir, en songeant aux amertumes qui attendent la vie qui vous reste à passer au milieu des hommes. À quelle assemblée des citoyens, à quelle fête pourrez-vous assister, sans en rapporter dans votre demeure au lieu des plaisirs du spectacle, des yeux baignés de larmes? Et quand le temps de l'hymen sera venu pour vous, quel mortel, ô mes filles, osera associer à son nom tout l'opprobre répandu sur mes parents et sur les vôtres? Et en effet, que manque-t-il à vos calamités? Votre père a assassiné son père. Il a rendu mère celle qu'il avait enfantée. Et il vous a engendré dans le sein où lui-même il reçut la vie. Vous entendrez tous ses reproches, et alors, qui osera vous épouser? Personne, ô mes enfants, personne. Le célibat et la stérilité seront votre partage. Ô fils de Ménécée, puisque tu es le seul père qui leur reste, car leur mère et moi nous ne sommes plus, ne les livre point avec dédain à une vie errante dans l'abandon et la mendicité, elles qui sont issues de ton sang. N'égale point leur infortune à mes malheurs. Aie pitié de leur jeunesse et de leur délaissement, elles n'ont que toi pour soutien. Promets-le, généreux Créon, touche-moi de ta main. J'aurais bien des conseils à vous donner, mes enfants, si vous pouviez les comprendre. Mais maintenant, demandez pour moi de passer ma vie où le destin veut que je vive et pour vous. Puisse votre vie être plus heureuse que celle de votre père.
C'est assez d'heurser de pleurs. Rentre dans le palais.
Il faut obéir, quoiqu'à regret.
La propos fait le mérite des choses.
Sais-tu à quelles conditions j'y vais?
Dis-le-moi, pour que je le sache.
C'est que tu me chasses loin de cette terre.
Tu me demandes ce qui dépend du Dieu.
Mais je suis l'objet de la haine des dieux.
Ainsi tes vœux seront bientôt remplis.
Dis-tu vrai?
Je ne dis point ce que je ne pense pas.
Eh bien, emmène-moi d'ici.
Viens donc, mais quitte ces jeunes filles.
Ah, ne me les arrache pas.
Ne demande pas à satisfaire tous tes désirs. Tes succès ont peu profité à ton bonheur.
Créon ramène Édipe dans le palais, les autres sortent. Le coryphée reste seul en scène, devant le chœur.
Voyez, Thébain, c'est Édipe qui expliqua les énigmes du sphinx, et qui, devenu puissant, n'a jamais regardé avec envie la prospérité de ses concitoyens. Voyez en quel abîme de misère il est tombé. Sachez donc qu'aucun mortel, tant qu'il n'a pas encore vu son dernier jour, ne saurait être appelé heureux, s'il n'a atteint le terme de sa vie sans avoir éprouvé d'infortune.